Voilà durable. Le magazine éco-logique. Une émission proposée par le Centre historique minier de l'Oward.
Et bonjour, bienvenue sous la verrière du Centre historique minier de l'Oward pour cette nouvelle édition de Voilà durable. Une heure pendant laquelle on va entre autres parler déplacement. On aura le plaisir d'être avec le Ripper Café de la Musette et puis également avec l'association douaisienne Droit de Vélo pour nous recontextualiser le cadre de ces émissions. Voilà durable avec nous. Virginie Malolipsi, Virginie, dis-le à ma place. Hein.
Virginie Malolipsi, bonjour.
C'est tellement plus simple comme ça. Alors Virginie, sous le soleil aujourd'hui.
Oui, on a beaucoup de chance.
Ouais, ça sent l'été, ça se passe bien au Centre historique minier de Loire. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein.
Oui, beaucoup de monde, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien, du soleil, du public, plein de casques jaunes autour de nous, donc... Génial.
Voilà, une idée sortie toujours hein, à découvrir et à redécouvrir le Centre historique minier de l'Oward. Alors, voilà durable, on va peut-être un peu rappeler pourquoi on ne parle pas qu'énergie, pourquoi on ne parle pas que passé minier ici au Centre historique minier de l'Oward.
Eh bien, effectivement, le Centre historique minier, c'est un musée de la mine, c'est un centre d'archives, mais c'est aussi un centre de culture scientifique de l'énergie, dont l'objectif est de replacer l'histoire des énergies, du charbon en l'occurrence, au cœur des autres énergies, mais surtout de s'interroger sur les questions d'avenir, les questions de transition. Et depuis un an et demi, le Centre historique minier est démonstrateur national de la transition écologique avec la et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes re-rencontrés, Hervé, et que nous avons décidé de construire ce super partenariat avec Radio Scarpe Sensée et cette émission.
Alors, pour celles et ceux qui ne comprennent pas exactement ce que c'est comme mission que d'être centre démonstrateur de la transition écologique, énergétique, ça consiste en quoi exactement ?
Alors déjà, ça consiste, premier objectif, se poser les bonnes questions par rapport à nous-mêmes. Est-ce que le Centre historique minier agit correctement en matière de transition? Quel est son bilan carbone? Que pouvons-nous faire de mieux pour faire en sorte de moins carboner, si on peut dire? Donc une réflexion en termes de bâtiments, en termes d'énergie utilisée, en termes aussi de transport. C'est le sujet d'aujourd'hui. Comment les visiteurs qui viennent au Centre historique minier y viennent-ils? Est-ce que notre bilan carbone n'est pas très très bon aussi parce que nos visiteurs viennent en voiture? Ils viennent de loin, ils viennent en voiture, parfois pas assez nombreux dans leur voiture. Et tout ça fait que, à nous de réfléchir à des dispositifs qui permettent également de décarboner dans ce sens-là. Donc le centre a monté beaucoup de partenariats ces derniers mois, notamment avec les transports ferroviaires. Avec notamment la possibilité d'avoir des tarifs privilégiés si on prouve que l'on est venu en transport en commun, avec bien sûr les transports du Douaisis, hein, le SMTD, etc. Et on a cette chance dans le Douaisis, rappelons-le encore et encore, d'avoir un transport gratuit, ce qui permet quand même des mobilités beaucoup plus intéressantes. Et puis, au-delà de ce que nous faisons, c'est aussi des missions, les missions d'un musée, d'un centre de culture scientifique, parler aux gens, leur montrer quelles sont les meilleures pratiques, ou leur donner, pas à nous de dire ce qui est mieux, mais faire se rencontrer les gens, essayer de leur donner des idées. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ces temps de rendez-vous, d'émissions ensemble.
Est-ce que ça veut dire également qu'au moment où on pense un projet, bouger. On regarde également à l'impact qu'il va avoir, l'énergie qu'il va demander, ce qu'ils vont engendrer. C'est à ce moment-là, il y a une nouvelle échelle de mesure qui se met en place.
Oui, une nouvelle échelle de mesure est vraiment parce que on est alors si on parle que du centre historique minier, les bâtiments, vous voyez, on est dans une fosse de mine. On a des bâtiments qui sont industriels, qui étaient là pour une industrie, mais qui aujourd'hui hébergent un musée. Ça engendre vraiment des choses totalement différentes. Et puis aussi dans la manière de faire. Pourquoi Voilà Durable est né. Voilà Durable, cette émission est née parce que on peut faire des conférences. Il y en a beaucoup, il y en a partout. La radio et notamment votre radio qui fait partie du réseau de la Fédération des radios associatives, c'est aussi une porte d'entrée pour toucher plein de gens. Et l'idée, c'est bien ça, toucher le maximum de gens dans leur quotidien.
Sans culpabiliser, au final,
parce que
c'est parfois compliqué que de se dire, et on s'aperçoit même parfois que des gens qui n'ont pas de gros moyens sont parfois, malgré eux, plus écolos que les gens qui ont
Exactement.
Des moyens supérieurs, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et qu'ils consomment moins, au
Exactement.
Final.
Exactement, et c'est vraiment redonner des idées du quotidien. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que chacun d'entre nous, par des petites choses que l'on peut faire qui ne nous coûtent pas, si ce n'est en énergie individuelle, d'abord peuvent nous faire gagner beaucoup d'argent. Parfois, tout simplement, le réemploi, ça nous semblait très important.
Dans les équipes, le message, il a été compris, parce que c'est vrai que quand on est comme ça, avec la force de l'habitude, dans le travail, que de modifier des façons de faire, des façons d'être, c'est pas toujours facile.
Alors, certaines pratiques, franchement, étaient innées et on le faisait déjà depuis longtemps. On avait eu une équipe, un groupe de travail qui avait rappelé à tout le monde la bonne pratique. On éteint la lumière quand on sort de son bureau. S'il fait jour, on n'est peut-être pas obligé d'allumer la lumière dans son bureau. On ferme ses portes pour que la chaleur ne parte pas. Des choses bêtes, hein. Réutiliser des feuilles en brouillon, tout simplement, imprimer le moins possible, peut-être se déplacer plutôt que d'envoyer un mail. Alors ça, c'est une chose très bête, mais on peut monter en escalier, aller voir son collègue, déjà c'est bien, hein, on peut parler avec lui, plutôt que d'envoyer un mail. Donc tout ça, ça va. Par contre, il est vrai que quand notre directeur est arrivé il y a 3 ans avec son projet, notamment de réancrer le centre dans la décarbonation, tout le monde s'est dit, mais on va parler de décarbonation, mais nous, on est un musée de la mine, un musée du charbon, notre public vient pour ça, comment on fait? Donc, c'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est super de se réinventer.
Mais ça colle également à l'idée de ce territoire, le bassin minier, qui, maintenant, depuis 50 ans, est en perpétuelle mutation.
Exactement. Et le fait de travailler, non pas centré sur soi, mais justement en s'ouvrant aux autres associations. Et nous, on est ravis aujourd'hui d'accueillir l'œil de la Musette et Droit de Vélo d'Ouézi, parce que ce sont des gens que l'on ne connaît pas forcément, alors qu'on habite le même territoire, on a les mêmes ambitions, etc. On les invite chez nous, notre public va les découvrir, va les croiser. Peut-être ils ne vont pas s'arrêter tout de suite, mais ils y reviendront parce qu'ils vont se souvenir de ce qu'ils ont vu. Donc c'est ça aussi le but du jeu, c'est se rencontrer, parler, jouer collectif. Et jouer collectif, c'est ce qui va servir à tout le monde.
Alors, on l'a dit, on va parler mobilité avec le Repair Café. C'est rentré l'habitude de faire durer les choses aujourd'hui, de chercher à les réparer plutôt que de racheter dans la pratique ici au Centre historique minier de Leeward.
Alors, moi, je peux vous dire, parce que je suis directrice des archives, mais en charge de la programmation aussi, le mobilier d'exposition qu'on utilise, moi, les vitrines sont des vitrines qui ont été conçues il y a très longtemps, qu'on réemploie, alors qu'on décape, qu'on repeint, qui sont réutilisés au maximum, les cadres, c'est pareil, et on prête. On a de plus en plus de collègues du bassin minier, y compris par exemple sur le territoire du Lensois, qui m'envoie un mail, passe un coup de fil en disant « est-ce que vous auriez des vitrines à prêter ?» Donc on est vraiment dans cet usage de « on n'achète pas ».
Et la question du déplacement, le covoiturage dans l'équipe, ça existe
Alors oui, parce que dans nos équipes, on a un certain nombre, notamment de médiateurs qui habitent en région lilloise ou plutôt justement dans le Pas-de-Calais, du côté de Nain-Beaumont, etc. Et ils covoiturent. Alors ça demande tout simplement que le responsable de service regarde les plannings et se dise « ah bah oui, un tel jour, ça colle, mêmes horaires ». Ils vont covoiturer, c'est super, donc il y a ça. Et on en a quelques-uns qui viennent en tram tous les jours et d'autres à vélo.
Ah ben voilà, comme quoi, une fois que les habitudes...
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais élèves.
Ah mais on ne peut pas non plus
être... On ne peut pas être parfait.
On ne peut pas être parfait et il faut juste avoir l'humilité de dire on fait ce qu'on peut et voilà. Dans la mesure du possible, on pense à le mettre en œuvre. Alors on va parler dans un instant avec les représentants du Repair Café de l'œil de la Musette. C'est à la Musette et c'est à Guénin. Avant tout ça, une petite pause musicale et puis comme on parlait un petit peu d'emploi, de tout ce qu'on a, tu sais, c'est vrai qu'il y a eu cette tendance dans les années 60, 70, 80 à l'accumulation et quand on écoute aujourd'hui Boris Vian, il était déjà terriblement visionnaire. Voici la complainte du progrès, on se retrouve de suite après avec l'œil de la Musette.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. La tourniquette va faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
Voilà durable. Le magazine Éco Logique.
Notre émission est enregistrée au Centre historique minier de Leeuward et qui, en partenariat avec Radio Scarpe Sensé, vous propose Voilà Durable et on vous emmène direction Guénin. On va aller traîner du côté d'un lieu que l'on connaît bien, chez Eric à la Musette avec les amis de la Musette. Nathalie va nous rejoindre. Pour l'instant avec nous, il y a Marco. Bonjour Marco.
Bonjour.
On va parler exactement du Ripper Café de l'œil de la Musette. Mais avant tout ça, on va peut-être présenter à celles et ceux qui ne connaissent pas la Musette, ce qu'est la Musette, un tiers lieu de vie sociale et culturelle, on peut dire ça comme ça.
Oui, donc en fait, l'œil de la Musette est la partie vie associative de la Musette. La Musette est un lieu, un tiers-lieu, qui est piloté par Éric Leleu, hein, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'ils ont fait les 7 ans de la Musette et il est à Guénin.
Ouais, c'est la fête ce soir.
C'est la fête toute la journée. Et moi, je suis arrivé dans le conseil d'administration, c'est ma deuxième année. Donc, j'ai pris la partie vie culturelle, vie associative, donc qui s'appelle le clin d'œil. Et je m'occupe de tout ce qui est programmation artistique. Aujourd'hui, je suis là en tant que membre du CA, hein, pour parler du Ripper Café.
Et en quoi ça fait sens que d'associer un lieu culturel à comme ça une activité plutôt Ripper Café de lien social, de cohésion, de...
Donc moi, ce qui m'a plu dans la notion de Ripper Café, c'est entre guillemets, on vient dans un lieu pour réparer les choses et pas les mettre à la poubelle, pour redonner de la vie à du matériel qui a priori est en panne. De temps, le mardi, on avait un Ripper Café et il y a un brave monsieur qui est venu avec 3 machines à raclette.
Ouais.
Ces machines à raclette, c'était tout simple pour les mettre en route. Il suffisait simplement de les faire sécher parce qu'elles avaient été stockées dans un lieu humide et la prise de terre faisait sauter les plombs. Tout ouais. Bête, un truc tout bête. Donc, on a débranché les prises de terre. Ça a chauffé.
Mais en quoi ça fait sens que d'être en charge de la programmation ce soir? Par exemple, il y a un concert, il y a de la musique ce soir.
Oui.
Mais en quoi ça fait sens pour toi que de mettre cette activité finalement de diffusion culturelle que propose la Musette avec ce type de rendez-vous dans le même lieu porté par la même association, les Amis de la Musette?
L'œil de la Musette.
L'œil de la Musette, oui, excuse-moi.
Pas grave. Ça donne du sens dans le sens où c'est de la vie sociale, de la vie de proximité. Mmh. C'est important pour les gens de venir dans un lieu où c'est un peu comme la deuxième famille, en fait. Et on participe, on échange, on construit, on reconstruit des choses qui sont vivable encore,
ouais.
Hein, et plutôt que de consommer à outrance et entre guillemets de jeter des choses qui entre guillemets avaient encore une chance de vivre, quoi.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Voilà. Alors Nathalie, on m'a dit c'est un peu la mémoire du Ripper Café, mais c'est également un peu la mémoire de l'œil de la Musette. Vous arrivez...
Non, c'est exagéré quand même.
Ouais. Vous arrivez dans l'aventure. À quel moment vous arrivez dans l'aventure et comment
Écoutez, il y a 3 ans, au moment justement du Ripper Café, de la naissance du Ripper Café, et donc l'œil de la Musette est plus ancien puisque ça fait 7 ans.
Ouais.
L'âge qui correspond aussi à l'anniversaire de la Musette, de la création de la Musette. Et bon, donc moi je m'y suis mise vraiment très naturellement parce que je suis vraiment anti-gaspi.
Ouais.
Je réutilise énormément de matériel chez moi, donc c'est une seconde nature, quoi. Je récupère énormément de matériel, donc ça me semble naturel que de récupérer tout ce qui peut être récupérable au maximum.
Et que de le faire dans ce lieu où on ne propose pas que ça, parce que justement la Musette, l'œil de la Musette, il y a des tas d'activités.
Alors elle propose, bien sûr que ça ne se résume pas au Ripper Café, l'œil de la Musette propose des manifestations culturelles telles que le théâtre de rue, la manifestation culturelle de théâtre de rue. Nous avons inauguré pour la première fois en septembre dernier le premier cru.
Festival de l'art de la rue. Oui,
oui, Festival Art de la rue. Ça a été un succès. On n'en revenait pas du tout. Dans un petit espace par rapport à la Musette, puisque c'était le centre, nous avions justement des écoles, des préaux. Et il faisait même très beau ce jour-là, donc il y a eu des manifestations dans des jardins, et là les personnes se sont ont participé de manière extraordinaire. Et même, je vais vous dire, j'ai vu quand même une personne se déplacer en déambulatoire qui n'a pas hésité à venir voir les spectacles. Donc, c'est pour dire que vraiment, ça a bien pris.
Ouais, il se passe quelque chose en plus. Et justement, est-ce que ça attire peut-être des gens qui viennent pour autre chose que de se dire le Ripper Café, ça existe et à ce moment, je le découvre. Je pense, par exemple, il y a la diffusion de matchs de foot de temps en temps.
Oui, tout à fait.
Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, certains prennent connaissance et se disent, mais ouais, c'est vrai, j'ai ce vieux truc à la maison, peut-être qu'on pourrait le réparer, peut-être que je pourrais
enfin le
réutiliser.
Bien sûr, on en parle de toute façon, dès qu'on en est là, d'ailleurs, moi, j'en parle autour de moi, il dit, c'est la première fois que je découvre, c'est vraiment un site, un endroit adorable, agréable. Il est transgénérationnel, ça, je tiens à le dire, parce que c'est un moment très convivial. On pose sa valise pendant 2-3 heures, on déambule, on rencontre des gens, on parle, on s'instruit, on construit, comme disait Jean-Marc. Oui, bien sûr. On participe aussi, on invite très fortement les personnes à s'intéresser à leurs produits cassés et à découvrir ce qui ne va pas. Donc, souvent, les personnes mettent la main à la pâte, je le vois, bien sûr, grâce à nos deux super bricoleurs, Alex et Pascal, qui nous ont jamais abandonnés puisque ils ont participé à cette aventure et c'est vraiment les têtes de proue quand même qui nous aident justement dans ce mouvement anti-gaspi.
Ouais, pour que ça dure, c'est quoi? Faut une équipe de réparateurs assez, assez polyvalent.
Très polyvalent. Ouais. On a des spécialistes pour les ordinateurs, des spécialistes vélo, des spécialistes cafetières. On a des spécialistes tondeuses, arracheuses de je sais plus comment ça s'appelle.
Débroussailleuses,
comme la dernière fois.
Bon, c'est-à-dire que l'activité elle peut être saisonnière. Là, je suppose que les tondeuses, les débroussailleuses et autres ont été de retour au moment où le printemps arrive.
Oui, peut-être, mais non. On a eu cet hiver aussi des tondeuses. On a parce qu'ils découvrent, dit tiens, mais c'est vrai, elle dort depuis un certain temps. J'avais une dame, elle me dit, bah écoutez, je vous la ramène. Bah bien sûr.
Quelles sont les motivations? Elles sont parfois financières, on sait que ça aussi...
Oui, c'est des motivations, bien sûr, financières. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive et ne connaît pas du tout, donc je lui explique le principe, et on lui demande une petite cotisation qui est à partir d'un euro. Ouais. Et en général, les gens sont assez généreux parce que ils donnent très souvent 5, voire 10, voire 20 euros. Enfin, on ne leur demande pas plus de dire ce qu'ils peuvent et sont très, très étonnés en disant « Ah ben, je dois repayer à chaque fois ?» Non. J'ai dit, à partir du moment où vous faites partie de l'association, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, vous faites partie de cet ensemble et vous serez amené à être au courant de tout ce qui se passe. Donc, aussi bien les manifestations photos, théâtre de rue, concerts.
Exposition. Dans la galerie.
Oui, rencontre belote. Bon, ça c'est la musette plutôt. Oui, mais c'est vrai que ça se mélange. Je veux dire, c'est tellement fluide que voilà.
Ouais. De toute façon,
une osmose entre la musette et l'œil de la musette. Vraiment, ça coule de source.
Et sur place, on se pose pas la question de qui organise quoi finalement, que ce soit la musette ou l'œil de la musette.
Il y a une chose, il y a un mot d'ordre, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux. Il n'y a pas de chef. Il y a de la confiance et de l'entraide, comme c'est un cadre social, culturel et solidaire.
Et puis quand
ça, c'est important.
Quand on entre là, tout le monde dit bonjour à tout le monde, et ça déjà, ça change à peu près absolument tout. N'allez pas là-bas comme si vous alliez dans un bistrot pour boire dans votre coin, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui viendra vous parler à un moment.
Exactement. Personne n'est laissé vraiment sur le côté. Ouais. On invite tout le monde.
L'activité réparation, parce qu'on est là pour parler mobilité. Oui. Vélo, c'est apparu très vite que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour faire réparer
leur vélo.
Leur vélo très vite.
Oui, oui, oui. Ça s'est greffé par la suite très vite d'ailleurs. Ouais. Hein, je pense que Thierry a fait partie de l'aventure.
Ça fait à peine. Ça fait un an.
Thierry, on va l'appeler Thierry. Voilà. Comme ça, on va voir directement.
La réparation vélo.
Voilà.
La réparation vélo.
Bonjour. Attendez, on va dire bonjour à Thierry. Ça se passe. Bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Ouais. Thierry, la réparation vélo, c'est arrivé très vite dans l'activité du Ripper Café. C'est quelque chose qui, tout de suite, il y a une demande de la part des gens qui sont venus vous rencontrer pour réparer leur vélo.
Oui, alors non, c'était c'est par connaissance. Hein. Moi, je suis arrivé à l'œil de la musette via Cathy, la présidente.
Voilà.
Cathy Hénich. Alors, on se connaît depuis très longtemps. Et puis, elle m'a fait découvrir ce lieu qui est la Musette, hein, Éric Leleu. Et tout de suite, j'ai adhéré parce que j'ai cette philosophie aussi. Et donc, comme Cathy savait que je venais faire une formation de réparateur mécanicien cycle, elle m'a proposé de rajouter une activité au Repair Café, et c'est de là que je suis arrivé pour ajouter la réparation de vélo au Repair Café du deuxième mardi de chaque mois à la Musette.
Ça répondait à une réelle attente?
Alors, au début, non. Et puis après, ben les gens savent que il y a cette activité en plus, et donc maintenant ça commence à se savoir. Oui.
Ouais. Parce que c'est également des questions de sécurité. Tant qu'à monter sur un vélo, autant rouler en toute sécurité, avoir des freins, ne serait-ce que ça, avoir une potence en bon état.
C'est ça, parce que bon, après avoir fait une formation de mécanicien cycle, on est un petit peu au cœur du vélo et de la mécanique, et puis donc on sait qu'il y a des choses importantes, hein, tous les serrages de potence, de guidon, les freins, les patins de frein, etc. Donc c'est vrai que parfois on a les cheveux qui dressent, même si j'en ai pas beaucoup sur le caillou, mais quand on voit arriver un vélo qui est en très mauvais état, on a un petit peu de mal. On est obligé de dire à la fin à la personne, ben voilà, il y a vraiment des réparations importantes à faire. Il faut vraiment, pour rouler avec ce vélo, par exemple, changer les patins de frein ou changer des gaines. Voilà.
On peut réadapter d'un vélo à l'autre quand on n'a pas la pièce exactement qu'il faut. Si on est suffisamment bricoleur, on arrive à faire quelque chose de bien.
Alors oui, il faut être un peu technique. Alors moi, je ne viens pas du technique, donc la mécanique cycle, je l'ai apprise parce que je suis un passionné de vélo, et puis j'ai fait cette formation. Mais oui, il faut quand même être technique. Et puis on a la chance aussi, lors du Repair Café, c'est d'avoir des gens qui sont vraiment des techniciens, des manuels. Donc on peut échanger, et puis on n'est pas seul, et on peut avoir l'aide d'autres mécaniciens qui sont sur d'autres machines.
Il y a des demandes pour réparer d'autres appareils de déplacement doux. Je pense par exemple trottinette ou autres. Ce sont des choses qui arrivent chez vous.
Oui, alors c'est pour l'instant c'est pas tellement arrivé, mais ça devrait arriver. Il y en a eu deux. Oui, il y en a eu deux.
Ah, Nathalie, alors, c'est la mémoire, hein, du Repair Café.
Oui, Nathalie, c'est la mémoire.
Ouais. Donc deux trottinettes.
Voilà. Alors moi je suis plus vélo, hein, et même un peu plus vélo ancien, vélo traditionnel, parce que maintenant vous savez que les vélos ça évolue beaucoup. Hein, il y a du carbone, il y a du titane, il y a des choses très très sophistiquées.
Il y a du vélo à 6 sens également.
Voilà. Alors après la limite du Repair Café par rapport à un atelier classique, c'est que le Repair Café n'a pas de pièces de rechange, hein. Donc on est là avec une technicité, on peut resserrer, on a un œil expert, j'ai un œil expert sur le vélo, mais je n'ai pas avec moi par exemple de patins de frein, de câbles, de gaines, etc., de boîtier de pédalier. Donc si je vois qu'il y a des choses à remplacer, donc je propose à la personne d'acheter les fournitures indispensables, et puis de revenir le mois suivant pour les installer.
Voilà, c'est
souvent ça se passe comme ça, c'est en stand-by. Donc on sait que par exemple la Philomène aujourd'hui, elle est arrivée, elle avait sa cafetière, il manquait des pièces. Elle a rajouté les petites pièces, elle est venue et on va terminer aujourd'hui sa cafetière.
Avec elle.
Avec elle. On suit. En fait, on ne lâche pas les personnes comme ça. On
accompagne.
Oui, on accompagne. On les pilote et puis ils reviennent avec plaisir tous les deuxièmes mardis du mois. Ça ne dérange pas du tout. Et pour rebondir sur l'activité de Thierry, c'est que des personnes sont venues, donc je les accueille. Pardon. Et puis elles viennent avec une cafetière au coq, ils disent ah mais on répare aussi les vélos, mais j'en ai un aussi qui dort dans mon je vais revenir avec le vélo, voilà. Donc ça aussi ça se fait, vous voyez, ça, le regard, tiens je ne savais pas, on découvre, c'est toujours de la découverte.
Parce qu'un vélo aujourd'hui ça coûte cher.
Oh oui,
Voilà.
Oh oui.
Ça faut le dire aussi, c'est pas accessible à tout le monde.
Non.
Voilà.
Un bon
donc,
vélo, non.
Et puis une fois qu'on l'a, c'est quoi ce que vous faites? C'est un peu de la maintenance, c'est du diagnostic, c'est ça relève plus de ça.
Voilà, c'est avoir un œil sur le vélo, c'est le voilà voir les points qui fonctionnent, ce qui pose problème. Et puis surtout de permettre à la personne de réutiliser son vélo quoi dans un délai raisonnable, parce que parfois ce sont des petites choses, mais les personnes qui hésitent ou qui ne savent pas bricoler ou qui ne connaissent pas la mécanique cycle vont laisser un vélo dormir dans un garage des mois, parfois des années, alors qu'il y a peu de choses à faire pour le remettre en état.
Et ça explique pourquoi certains abandonnent justement le vélo et oublient de l'utiliser. On recourt systématiquement à la voiture, même pour des déplacements très courts, parce que le vélo est là, mais il est loin, il est plus en bon état. Et puis
voilà,
on a
c'est
pas
ça,
fait...
ça tient vraiment à peu de choses. Hein. Il suffit que voilà la personne n'ait pas les compétences ou n'ait pas les personnes ressources pour voilà, et puis ça reste dans le garage et c'est dommage finalement.
De quel type de réparateur bénévole auriez-vous demain besoin pour le Hypercafé de l'œil de la Musette? De quel type de réparateur auriez-vous besoin aujourd'hui? Vous auriez besoin de spécialistes particuliers dans des technologies particulières ou
Moi, je peux dire que il y a une activité informatique qui s'est mise en route il y a moins d'un an.
Oui.
Donc maintenance d'ordinateur, etc. Ben,
c'est Jérôme.
Oui, Jérôme qui s'occupe de ça.
Oui, tout à fait. Non. Écoutez, c'est au tout venant, c'est-à-dire que si vraiment il y a un appareil tout à fait spécial, on se posera la question. Et de là, on parle entre nous et on essaye de graviter autour de nous pour savoir si quelqu'un est apte à réparer cette. On se laisse jamais déborder. On essaye toujours en recherche de solutions tout le temps.
Ouais.
Tout le temps. C'est de la mouvance. On est tout le temps... Donc, on se pose des questions et puis on se dit, tiens, ça serait bien. Est-ce que tu connais pas un tel ou quoi? Cathy, qui connaît énormément de gens. Et je voudrais préciser aussi que Cathy s'occupe du Hyper Café aussi. Hein. Je ne suis pas l'âme. Elle est l'âme aussi.
Mais vous tenez un peu les comptes. Depuis 3 ans, est-ce que vous avez une idée du nombre d'appareils ou de la masse que ça représente, de ce qui n'est pas parti peut-être dans une décharge dans,
bah, écoutez, pour vous donner un petit peu une idée, bon, mardi dernier, on a fait 53 kilos. D'autres mardis, on faisait 80 kilos. C'est quand même important, je veux dire, 80 kilos de sauvés, c'est quand même... énorme.
Ouais. Et on va rappeler que c'est un gain pour
on
la
collectivité. On a déjà dépassé la centaine.
Ouais. C'est un gain pour la collectivité parce que finalement la prise en charge de ce qui pourrait devenir un déchet, c'est payé par tout le monde quoi. Et ça se calcule pas en nombre d'appareils, mais également là aussi en masse et en poids. Donc
c'est très important parce que nous remontons tous ces résultats au plan national.
Ouais.
Donc ça c'est Cathy qui s'en occupe justement de transférer tous ces résultats. On fait partie d'un grand mouvement justement de développement durable. Donc hein.
Pensez qu'on peut inverser finalement les habitudes des habitants, de la population.
Oui, je le pense, petit à petit. Il y en a maintenant qui sont absolument convertis. D'autres, peut-être un peu moins, c'est l'occasion. Mais je pense qu'au fur et à mesure, et puis avec aussi la qualité de l'accueil, les explications, le passage, fait qu'ils passent un très bon moment. Ça, ouais. Ils ont envie de revivre. Et donc, oui.
Et puis, il y a peut-être également...
Il y a tout cet accompagnement. C'est pas seulement vous réparer, voilà, on vous laisse tomber. Non. Il y a tout un accompagnement, une atmosphère.
Marc.
Moi, ce que je peux dire, c'est que je pratique le Repair Café. La première chose que j'avais proposée, sur laquelle je m'étais positionné, c'était une yaourtière.
Ouais.
Il y a une yaourtière à la maison et cette yaourtière, elle est tombée en rade. Donc, je suis venu avec cette yaourtière il y a un an et demi pour essayer de la réparer. Donc, on l'a diagnostiquée, on a vu les pièces qu'il fallait changer. J'ai commandé les pièces qui allaient bien sur une plateforme internet. Un mois après, je suis revenu. Et pas de bol, le matériel qu'on a repositionné a grillé, et donc là je me suis retrouvé dans le choix, le difficile choix cornélien de je réachète du matériel ou je réachète une yaourtière. Et là c'est le budget qui compte entre guillemets. Donc quand on met deux fois le budget d'une yaourtière en achat de matériel, on préfère racheter une yaourtière.
Ouais, voilà. Donc il y a ça aussi.
Hein, bah oui, c'est cornélien ce choix-là. Ouais, c'est cornélien.
Faut pas perdre tout ça.
Mais face à justement à la réparation et ce qu'il faut ajouter, parfois ça dépasse le prix des pièces, dépasse la réparation. Donc on laisse le choix. Et souvent, la personne dit oh, « ben non, c'est pas la peine ».
Il y avait une tondeuse.
Donc oui, c'est un souci financier.
Ouais. Mardi, on avait une tondeuse de jardin. Oui. On l'a complètement désossée. Le moteur sentait le chaud. Et on a regardé sur Internet le prix d'un moteur. Le prix d'un moteur sur une tondeuse marque distributeur, c'est quasiment une fois et demie le prix de la marque de distributeur. Donc ben là, la personne a dit « bon, ben, je la mets à la déchetterie, point
». Alors, il y a aussi peut-être une impétence pour... ce qui revient à la mode, tout le matériel vintage, voilà.
Oui.
Des vieux trucs qui, avant, pouvaient faire déco, parce que c'était de jolis objets, mais aujourd'hui, peut-être l'envie encore de pouvoir les utiliser. Cette mode, vous la sentez également des gens qui viennent avec ça. Je pense, par exemple, les platines vinyle ou les lecteurs cassettes, tout ce qui peut être de la hi-fi vintage qui revient aujourd'hui.
Oui, on a
très,
eu ça.
Très à la mode.
Hein. On a eu ça, on a eu des platines, c'est vrai.
Ouais. Hein.
Moi, j'ai un vieux poste radio des années 40. Pour le moment, je m'occupe des autres, donc je ne vais pas commencer, mais j'y pense sérieusement à le faire réparer. Il a le son, si vous voulez, mais enfin bon, il y a des grisouillis, de la friture, hein? Donc il faut que je... Mais c'est un gros poste comme ça, vous voyez, énorme. Ouais. Donc oui, il y a des vieux appareils. D'accord, la dernière fois, c'était un Moulinex.
Ah oui. De Suzanne.
Un
outil magnifique, qui avait 40 ans, 50 ans, bien mûr.
Costaud comme tout. Ouais, ouais. Elle me dit, il marche pas. Et donc, avec les doigts magiques d'Alex pouf, il l'a fait redémarrer comme par enchantement.
Et elle appelait sa maman en disant, ça marche. Mais la maman l'a dit, est-ce qu'il a essayé avec du parmesan?
Alors pour...
moi, je lui dis, je le rachète.
pour participer au Repair Café à la Musette à Guénin, organisé par l'œil de la Musette, rendez-vous à quel moment?
Tous les deuxièmes mardis du mois, à partir de 18h, 18h30.
On installe à 18h pour...
c'est 18h. C'est de 18h à 21h. Ouais. Nous, on arrive vers 17h pour tout installer. Donc 18h, 21h, tous les deuxièmes mardis du mois. Alors, je précise que le mois de juillet, il n'y aura pas de Repair Café, ni le mois d'août, puisque la Musette est fermée. Et on recommence le deuxième mardi du mois de septembre. Alors, rendez-vous en septembre.
Merci beaucoup. Dans un instant, dans Voilà Durable, on retrouve l'association douaisienne Droit de Vélo. Avant tout ça, on va écouter les Chasse-Patates avec Fée du Vélo.
Fée. Un, et deux, et un, deux, trois. Fée du Vélo, Fée du Vélo. Te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure. Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, plus jamais le moral à zéro. Toi, contrairement à tous ces géants de la route, tu prendras le temps de boire et de casser la croûte. Tu pédaleras toujours heureux, tranquille pépère, et découvriras les joies de la vie au grand air. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus non. Je mets plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à l'heure. De se refaire une santé. Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure. Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non, jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo,
fais du vélo,
fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro.
Jean-Paul, une exclusivité, Jean-Paul.
Oui, oui, Patrick. Alors, je suis au pied du carpodium des chasse-patates, où nous attendons toutes les remarques de Didier Guimard.
Oh, les gars, mais roulez juste et groupez. Vous sentiez le groove, comme d'autres tapent le pavé, enfin. Tel un diamant qui creuse le sillon du vinyle sans jamais s'arrêter.
Mais mettez du braquet pour accélérer le tempo.
Une guitare qui sprint et dans les boyaux.
Vous êtes des forçats du riff, des baroudeurs de mélodie, bouffeurs de macadam musical, les grégarios du rythme. Et surtout, n'oubliez pas les gars, les champions, on peut en voir partout. Tout ce qu'on veut voir, c'est les chasses patates.
Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non, jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo.
Et donc alors, qui est-ce qui a gagné la course? On ne sait pas, hein. Putain, on vous écoute. Et ben, comme ils tournent tous en rond, on ne sait pas.
Bah, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro.
Vous avez fini?
Oui, c'était très bon.
Mais... Oh non, là, c'est héros! Ah oui? Maintenant, vous allez goûter les restes, hein? Il y a les escargots, vous voyez?
Voilà Durable, le magazine éco-logique.
Émission proposée en partenariat avec le Centre historique minier de Loward et enregistrée sous la verrière du Centre historique minier de Loward sous le soleil aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de recevoir l'association Droit de Vélo d'Ouézi. Je vais demander à Jean-Claude, le président, de rapprocher peut-être le micro pour être bien en face. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour.
Avec vous, Babette. Bonjour, Babette.
Bonjour.
Alors, présidente, vice-présidente aujourd'hui de l'association Droit de Vélo. On va rappeler, alors c'est une longue histoire que celle de Droit de Vélo d'Ouézi, une action militante pour faciliter l'accès au vélo et la sécurité des cyclistes. On peut résumer votre action comme ça?
Tout à fait. Nous faisons en sorte de familiariser les gens avec la pratique du vélo. Et pour ça, ben, ça nécessite pas mal de choses, en particulier de circuler dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avoir des voiries et des endroits où on peut circuler en sécurité, ouais. En sécurité primordiale. Et donc, nous organisons plusieurs animations autour de ça, comme la vélo-école.
On va revenir là-dessus, ouais, mais c'est-à-dire que vous avez également une action auprès des décideurs en charge des voiries.
Nous rencontrons donc régulièrement les mairies,
ouais.
certaines mairies, parce qu'il y en a d'autres, malheureusement, les portes sont fermées, ouais, malheureusement. Les mairies, nous avons également des relations avec Douai Aglo,
ouais,
avec le SMTD. Mmh. Et donc, nous les rencontrons régulièrement, disons deux ou trois fois par an, pour justement parler avec eux des améliorations, des aménagements cyclistes dans leur commune, dans leur secteur.
Il y a de la place pour tout le monde sur les routes du Douaisis aujourd'hui. Tout le monde peut facilement cohabiter, ou il y a encore quelques endroits où c'est assez problématique?
Il y a malheureusement encore beaucoup d'endroits polémiques.
Ah. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire autrement? C'est un manque de volonté, ou alors c'est que finalement, à l'époque de la conception des équipements ou des plans de circulation, on n'avait pas pensé suffisamment au vélo?
Alors, donc, on demande à être associé, bien entendu, au projet. Hein. Alors, des fois, on l'est, des fois, on ne l'est pas.
Ouais.
Donc, on donne notre avis. Alors après, évidemment, l'obstacle numéro un qu'on rencontre, c'est l'argent.
Hein.
Ouais. Voilà. Et ensuite, des infrastructures qui ne sont pas adaptées finalement à ce que ça serait, que l'idéal serait pour les vélos.
Alors, quand vous dites que ça coûte cher, c'est-à-dire qu'une piste cyclable, ça coûte plus cher que prendre en charge quelqu'un qui aurait subi un accident parce que c'est pas suffisant. Ça coûte plus cher que ce que nous coûte aujourd'hui l'émission de CO2 par les autres modes de déplacement. Tout dépend de comment on regarde de ce que
alors,
ça coûte.
Alors, bon, c'est pas moi qui gère les budgets.
Ouais. Mais ces arguments aujourd'hui, Abette, vous avez l'impression qu'ils commencent à être pris en compte, entendus par les décideurs, le fait de se dire il y a peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est vrai que moi, je remarque quand même dans le Douaisis qu'on croise quand même de plus en plus aujourd'hui de cyclistes, de vélos cargo, des gens qui ont adopté le vélo comme mode de déplacement pour les petits déplacements du quotidien.
Ça dépend. Ce sont des décisions politiques qui diffèrent d'une ville à l'autre,
ouais,
et on voit le résultat. Et c'est vrai qu'il faut commencer par les structures, par les installations cyclables, pour amener les cyclistes, et pas faire le contraire. Voilà, il ne faut pas attendre qu'il y ait beaucoup de vélos pour dire bah, « là, on va faire une piste ». Non, c'est le fait de...
Mais du moment où on met une piste, du moment où on adapte, on s'aperçoit que les personnes n'ont plus peur de remonter à vélo et de prendre le vélo.
Mmh.
Et d'essayer. Vous faites le même constat ou pas? Ou alors c'est une impression que moi j'ai, tout à fait subjective.
Je pense que oui, ça en est fait certain. Après, il faut que ce soit bien conçu. Et c'est pour ça qu'on demande à être consulté une fois que les plans sont prêts avant les travaux.
Ouais.
Et hier, on a eu une petite discussion avec un maire. On n'a pas la même façon de voir.
Ouais, ça existe.
Ouais. Non, mais
les obstacles pour nous. Non, ce ne sont pas pour les décideurs.
Il y a également le fait de vous adresser directement aux personnes et aux cyclistes, cette fois-ci, directement concernés. Le droit de vélo du Douaisis, c'est quoi? C'est une aide pour les cyclistes amateurs du quotidien, pour trouver du conseil, de la ressource. Ça fait partie également de vos missions, ça?
Oui. Ouais. Par exemple, comme aujourd'hui, sur le stand, on a préparé nos outils, mais c'est important aussi de parler de comportement sur la route, de faire connaître justement nos vélo-écoles.
Ouais.
On va dans les écoles pour faire de la sensibilisation au bon comportement sur la route, expliquer les dangers.
On s'y prend tôt, finalement, avec les enfants, finalement, pour leur donner goût, finalement, ne serait-ce que d'aller à l'école à vélo. Là, on a constaté quand même une très, très grosse amélioration du nombre d'enfants qui maintenant prennent leur vélo pour aller à l'école. Même certaines écoles ont aménagé leur préau, leur cours d'école
pour
accueillir les vélos. Il y a vraiment un progrès très, très fort qui est fait de ce côté-là. Et nous, donc, on intervient donc un accord avec Noué Aglo, finalement, dans les écoles, les collèges, les lycées du Douaisis. Et...
C'est vrai que le vélo, ça s'oublie pas, ou alors ça, c'est une phrase passe-partout, et que si ça fait longtemps qu'on n'a pas monté sur un vélo, vaut mieux quand même...
Oui, c'est conseillé. Alors, nous faisons des séances de remise en selle, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas fait de vélo pendant, je sais pas, 10-15 ans, qui voudrait encore refaire du vélo, et ben donc on refait pas un apprentissage complet, mais on les aide finalement à retrouver le goût du vélo. C'est toujours, toujours ça, ouais, leur donner l'envie d'en faire.
Ouais, la confiance et puis peut-être la sécurité avec des règles de circulation qui ne sont plus forcément aujourd'hui les mêmes que celles qu'elles étaient il y a 30-40 ans de cela, quoi.
Alors il y a eu de l'évolution, hein, c'est sûr. Le premier problème qu'on rencontre quand même malgré tout, c'est la peur quand même malgré tout. Les gens qui montent sur un vélo qui n'ont pas l'équilibre nécessaire et qui doivent retrouver justement cet équilibre pour.
Donc c'est plus la peur de la chute que la.
Bah, au départ oui, c'est ce qu'on rencontre en premier.
Ouais. Ouais. Et ensuite, vous vous rendez compte quand même qu'il y a des cyclistes qui reviennent et qu'on a besoin d'accompagner justement pour leur rappeler de temps en temps justement que bah voilà, la circulation pour les vélos se fait dans ce sens-là ou de cette façon-là et que le cycliste est un usager de la route qui ne peut pas finalement ignorer les règles de circulation.
Voilà, alors donc on organise, on ne refait pas, je veux dire, de nouveaux stages après avec ceux qu'on a remis, on va dire, en selle. Ouais. Et par contre, on fait des balades tranquilles, hein, des balades familiales de quelques kilomètres, tous ensemble. On roule en ville, bien entendu. Et là, c'est l'occasion rêvée pour découvrir la signalisation routière et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur une route. Donc moi, je conseille à ceux qui souhaiteraient... refaire, on va dire, du vélo, mais qui ont justement cette crainte de circulation en ville, bah, de nous rejoindre quand on fait nos balades. Et là, on est là, nous, en encadrement, pour les guider comme il faut.
Quand on voit le prix du carburant qui augmente, vous avez senti peut-être aujourd'hui, ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être davantage de personnes motivées en se disant « je prends plus la voiture parce que ça coûte trop cher et je prendrai bien mon vélo ou pas ?» Il y a eu des retours comme ça?
Nous, à droit de vélo, peut-être pas, mais enfin, j'ai entendu dire, en effet, qu'il y avait pas mal de gens, quand même, qui, à cause du prix du carburant, bah, avaient dit, bon, c'est fini, ma voiture, je n'utilise plus, je prends le vélo.
On fait de réelles économies quand on rend, quotidiennement, on utilise le vélo, c'est une économie.
Oui, bien sûr, bah, évidemment.
Vous arrivez à mesurer.
On fait des sacrées économies, c'est sûr, hein, au prix de l'essence.
Ouais.
Alors, après, bon, c'est sûr que la voiture. Malheureusement, quand on fait 1000 km, c'est quand même plus pratique de le faire en voiture qu'à vélo.
Oui, bien sûr.
Quoique, il y en a qui le font. Mais pour les petits trajets, pour les petits trajets.
Qu'est-ce qu'on entend, un petit trajet? Alors, un petit trajet à Douaisis, à droite de vélo Douaisis, c'est quoi?
Un petit trajet, bah. Ouais.
Je trouve
qu'il y a des gens, par exemple, qui prennent leur voiture pour aller à la boulangerie du coin, au petit magasin du coin, qui est à 1 km ou 2 km, prennent leur voiture pour acheter deux fois rien, une baguette, ouais, des choses qu'ils pourraient mettre sur leur vélo. Bah, faut y aller à vélo, faut pas y aller en voiture. Un petit trajet, c'est bon, 5 km, quoi.
Voilà. Ouais, alors, ça se mesure en nombre de kilomètres ou en temps passé sur la selle?
Bah, tout dépend de la vitesse à laquelle on roule. Ouais, on prend un quart d'heure, 20 minutes.
D'accord.
Ouais.
Aujourd'hui, on roule avec un vélo à assistance électrique de la même façon qu'un vélo classique où il y a des choses qui changent.
Alors, donc, moi, j'ai essayé les deux, hein, le vélo électrique. Alors, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Il n'y a pas que de l'avantage au vélo électrique. Confort, peut-être, hein, peut-être un peu plus. Mais par contre, on se sent beaucoup plus... dans la nature, je veux dire, avec un vélo, je veux dire, ordinaire et avec la traction humaine, quoi. C'est pas les mêmes sensations. Moi, j'ai pas les mêmes sensations sur un vélo électrique que sur un vélo ordinaire, on va dire.
Même quand c'est pour un déplacement du quotidien, faut quand même avoir le goût de l'effort. pour prendre son vélo, ça...
Ah bah, il faut obligatoirement avoir envie de le faire, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas le vélo qui va nous conduire.
À partir de quel moment on n'y pense plus ? Je veux dire, à partir de quel moment ça devient naturel de ne plus penser, de ne plus souffler en partant en disant « il pleut et je pars à vélo ».
Alors, c'est l'habitude. À quel moment, tout dépend des gens. Hein.
Ouais.
Mais bon, c'est une question d'habitude. Si on se donne la volonté de prendre le vélo pour faire quelque chose et ne pas prendre la voiture, après, il y a des gens qui n'ont pas de voiture non plus.
Hein. Mmh. Mais
si on a une voiture et un vélo... Pourquoi on prend le vélo ? Eh ben, il faut se forcer à prendre le vélo pour des petits déplacements, encore une fois. Hein, et plus on le fera, et puis plus on s'habituera finalement à prendre son vélo pour sortir.
Ça coûte cher, un vélo, aujourd'hui ? Ça coûte trop cher ?
Alors, un vélo, moi, je trouve que ça coûte quand même peut-être un peu cher. Mais bon,
ouais.
On a des vélos à tous les prix, hein.
Mmh.
D'ailleurs, de plus en plus maintenant, les magasins et même nous-mêmes d'ailleurs, à Droite Vélo, on fait de la deuxième main en quelque sorte, hein, c'est-à-dire des vélos qui sont réparés et qui sont revendus après réparation en seconde main. Et donc là, ça coûte moins cher, bien entendu. Après, des vélos, on en a de de 100 euros à 5000 euros. Hein.
Voilà. Et puis également dans le Douaisis, des associations d'insertion qui justement remettent en état des vélos prioritairement pour des personnes qui vont partir en formation ou qui décrochent un emploi et qui ne peuvent pas être véhiculées. Ça existe également. C'est-à-dire que le vélo, ça devient le prétexte à la solidarité, au lien social, à l'insertion à ce moment-là.
Oui.
Vous êtes en contact avec ces structures-là ou
Par exemple, on va donner les noms.
Oui, allons-y.
Bon, je sais pas, il y a la clinique du vélo, par exemple. Hein, oui, des contacts. Oui, on a de bons contacts. On a de bons contacts avec eux. Nous connaissons. On n'empiète pas les uns sur les autres. Repère Café, on a vu, ils réparent également les vélos. Nous aussi, on répare les vélos.
Ouais.
Mais il y a des gens qui sont dans les deux d'un côté et l'autre, qui ont deux casquettes, et on s'entend très très bien.
Ouais, ce qui compte, c'est d'être finalement nombreux à défendre.
Moment qu'on suit le même but, il faut suivre justement ce but-là, d'aimer le vélo.
La réparation du vélo, ça c'est un geste important. Vous êtes là et vous êtes venu en disant on est en capacité peut-être de réparer quelques vélos ou en tout cas de diagnostiquer. C'est important ça également que d'être vigilant sur l'état de son vélo.
Ah, tout à fait. Alors là, c'est hyper important. Un frein qui ne marche pas, une pédale qui dérape un pneu, même un pneu mal gonflé, c'est source de danger pour sortir à vélo. Donc, il faut qu'on... Alors, donc, nous, on fait des petites réparations, mais on apprend aussi aux gens à entretenir leur vélo, qui est important. Simplement, le gonflage des pneus, ne serait que ça. C'est quelque chose de très important, mais qu'il faut faire.
Ce sera l'une de mes dernières questions. Est-ce que, à travers des événements, là, on va arriver le Tour de France, on va nous reparler du vélo, on a peut-être un nouveau champion français, on espère, hein, qui pourrait remporter
success.
La grande boucle. Est-ce que de tels événements, ça provoque un nouvel intérêt pour le vélo ? Et est-ce que le cycliste, comme ça, sportif, amène des gens à prendre le vélo pour le déplacement du quotidien ?
Alors non, je pense que ça doit, à mon avis, plus avoir un impact sur les randonneurs, par exemple, qui font des grandes sorties plusieurs fois par semaine ou le dimanche, qui font des centaines de kilomètres. Mais bon, nous, on reste quand même à un niveau de balade. Donc, le Tour de France, bon... Ça a été un grand événement, bien entendu.
Quand ça passe dans le Douaisis, par exemple, est-ce que ça a un impact
Non, vraiment.
On ne voit pas plus de cyclistes avant et après.
Non, pas pour nous, non. Dommage, mais on ne remarque pas.
Voilà. En tout cas, si on veut joindre l'association Droite Vélo, si on veut vous retrouver, on s'y prend comment ?
Pour nous retrouver à Droite Vélo. On est à la maison du vélo à côté de la gare.
Ouais.
Donc, il vaut mieux téléphoner avant parce que on n'a pas de permanence quand même. Donc, on a souvent des gens qui sont là-bas, mais bon, il suffit d'arriver et puis qu'il n'y ait personne. Donc, il faut téléphoner. On a un numéro de téléphone, bien entendu. On a un site internet également, droitdevelo.fr, c'est ça, c'est
on va trouver facilement sur le moteur de recherche.
Voilà, et là, on a tous les programmes.
Vous avez besoin de quoi aujourd'hui, l'association?
On a besoin de quoi?
Ouais, prioritairement. De la considération, quand on, oui. Barbara, alors, c'est ça. Toujours ce sentiment quand même d'être pas suffisamment compris ou écouté, entendu. Ou alors compris, mais ignoré.
Ça fait 30 ans. L'association a 30 ans cette année.
Voilà.
Et on mène les mêmes combats, c'est un grand mot, mais... il faut vraiment avoir la foi.
Ouais.
C'est...
Et il y a de nouveaux militants qui arrivent. Est-ce qu'il y a une relève?
Un petit peu.
Ouais.
Le fait de tenir des stands... se faire connaître, on discute avec les gens et des fois ça accroche. Ouais. Là, cette année, on a membres qui sont vraiment actifs et intéressés, donc c'est bien.
Oui, il y a un renouvellement, on est une équipe, bon, il y a des anciens, il y a des jeunes maintenant qui nous ont rejoints. Ça tourne bien.
Et s'il fallait donner un dernier petit conseil de sécurité à délivrer auprès des automobilistes et auprès des cyclistes, ce serait le même message ou deux messages différents?
Ça serait bien que les automobilistes aient plus de respect pour les cyclistes. Ça serait bien aussi que les cyclistes ne fassent pas n'importe quoi. On ne peut pas dire que tout est parfait dans ce monde-là. Il y a des cyclistes et malheureusement beaucoup de jeunes qui considèrent que s'ils sont sur un vélo, ils ont le droit de tout, quoi. Ça, évidemment, nous, on peut pas l'admettre. De la considération que les automobilistes, savent partager la rue avec les autres moyens de locomotion. On a un phénomène qui est en train de se développer actuellement, c'est la trottinette.
Ouais.
La trottinette électrique ou trottinette simple, et de plus en plus les trottinettes électriques. Ça devient hyper dangereux pour les automobilistes et même pour les vélos. Parce que les gens en trottinette, encore une fois, souvent des jeunes, il n'y a pas que des jeunes, bien entendu, mais surtout des jeunes, franchement, ils font n'importe quoi sur la trottinette. Ça n'est plus du code de la route. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un feu rouge, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un stop, ils foncent, quoi. Et ça, c'est encore plus dangereux. Et donc, c'est le respect, finalement. La rue, on doit se la partager. Et il faut que tout le monde ait la contrainte de ce partage, et puis le partage dans une bonne harmonie et avec le sourire.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé ici à notre micro.
Merci à vous.
Jean-Claude Babette, et puis longue vie, donc, à Droit de Vélo d'Ouézy. C'est fini pour cette émission.
Voilà Durable, le magazine éco-logique. Une émission proposée par le Centre historique minier de Loward.
Notre émission était enregistrée aujourd'hui sous la verrière du Centre historique minier de Loward, sous l'œil bienveillant et l'écoute attentive de Virginie. Merci Virginie pour l'accueil.
Merci Hervé et à bientôt. Bon, pour une prochaine.
Voilà, on reparlera encore une fois de transition, de vie. Et on s'aperçoit que même quand on parle finalement de déplacement du quotidien, quand on parle nourriture, quand on parle chauffage, alimentation et autres, habitation, on en revient toujours finalement à l'idée de se dire il se passe quelque chose et il faudrait pas grand chose pour que ça se passe encore mieux et plus vite.
Exactement, donc continuons et j'en profite, joyeux anniversaire Droit de Vélo.
Merci, à bientôt sur Radio Scarpe Sensée 94.10 pour une nouvelle édition de Voilà Durable avec le Centre historique minier de Loard.